Cinquième commandement de Dieu, tu ne tueras pas. Ou, homicide, point ne sera, de fait, ni volontairement. Que nous défend ce commandement? Bien sûr, il défend tout d'abord l'homicide. Il défend de tuer quelqu'un de son autorité privée. Il défend de se tuer soi-même, ou de se battre en duel, disons, dans le catéchisme, mais le duel n'existe plus, mais on transpose avec les moyens actuels, s'amuser à se tirer dessus, par exemple, sans raison, enfin voilà, pour s'amuser vraiment, même pas pour s'amuser, tirer sur quelqu'un, voilà. De frapper le prochain, de lui dire des injures et de le haïr. Donc c'est un commandement qui est large, qui ne concerne pas que la mort donnée au prochain ou à soi-même. Le crime de ceux qui donnent la mort au prochain s'appelle donc homicide, et le crime de ceux qui se donnent la mort s'appelle suicide. On se rend coupable d'homicide lorsqu'on donne volontairement et injustement la mort au prochain. Alors on pense très rapidement là à tous les avortements qui se font, ce sont des homicides qui attirent la vengeance de Dieu. Il est trois cas où l'on peut sans péché donner la mort à son prochain. Premièrement, dans une guerre juste, mais même pendant la guerre, on évite de, bon, si autant que possible, on évite de tuer, de blesser. Deuxièmement, en cas de légitime défense. Troisièmement, pour exécuter les arrêts de la justice. Et c'est un grand péché de souhaiter la mort du prochain ou de s'en réjouir quand on le fait par haine ou par intérêt. Des personnes qui se réjouiraient de la mort de leur oncle parce que leur oncle leur a promis a fait un testament en leur faveur, se réjouiraient de sa mort, feraient un péché grave. Il n'est pas permis aussi d'accélérer la mort de quelqu'un afin d'abréger ses douleurs. On peut abréger les douleurs tout en sachant que le remède que l'on va donner va peut-être et sans doute amenuiser la vie de cette personne. Mais on n'a pas le droit de donner le médicament pour accélérer la mort. Il n'est pas permis de se donner la mort, quelque malheureux qu'on soit, parce que notre vie appartient à Dieu et que seul il a le droit d'en disposer. Alors maintenant, avec l'euthanasie, vous faites vite la transposition et l'application. L'euthanasie est un homicide. Et les malades n'ont pas à demander qu'on accélère le processus pour arriver plus vite à la mort. Celui qui se donne la mort s'expose à la damnation éternelle, puisque ordinairement, il n'a pas le temps de faire pénitence. Il se donne un coup de revolver, il n'a pas le temps de regretter, de demander pardon, il s'expose vraiment à la damnation éternelle. Le suicide est un si grand crime que l'Église refuse aux suicidés la sépulture chrétienne lorsqu'on est certain que la personne en question jouissait de ses facultés en se donnant la mort. Il n'a pas droit à avoir un enterrement à l'Église. Maintenant, l'Église conciliaire moderniste le permet comme elle permet tout. Mais nous parlons de la vraie Église là. Il n'est jamais permis, pas même à l'autorité publique, de tuer un innocent, lors même que le bien commun l'exigerait et que l'innocent y consentirait, car il n'est pas maître de sa vie et c'est intrinsèquement mauvais de le tuer. Donc, dans quelque cas que ce soit, le crime est interdit. Il n'est pas permis de se souhaiter la mort, à moins que ce ne soit par le désir de voir Dieu dans le ciel ou pour ne plus l'offenser ici-bas. Nous pouvons souhaiter être martyrs pour aller au ciel tout droit, par exemple, être sûr d'aller au ciel et sans passer par le purgatoire. On peut désirer être martyr pour une raison beaucoup plus belle encore, pour le désir de donner sa vie à Dieu qui a donné sa vie pour nous. Donnant. Celui qui se bat en duel, bon, transposé, est très coupable parce qu'il s'expose à donner la mort ou à la recevoir, à tomber en enfer ou à précipiter l'âme de son prochain. Et de même, on n'aurait pas le droit de faire des jeux extrêmement dangereux pour la vie. On n'a pas le droit d'exposer sa mort à la légère comme ça. On peut exposer sa mort pour sauver quelqu'un, pour éviter un incendie, je ne sais trop quoi, mais on n'a pas le droit d'exposer sa mort pour jouer. C'est aussi un péché grave. Et ceux qui sont témoins, par exemple, du duel, quand le duel existait, ou d'un autre jeu très dangereux, qui expose la vie des joueurs, eh bien, est aussi coupable que les joueurs eux-mêmes. Enfin, avoir de la haine contre son prochain, ce n'est plus être le disciple de Jésus-Christ. Cela revient à dire qu'avoir de la haine pour quelqu'un, c'est être en état de péché mortel. On ne peut pas aimer Dieu en haïssant son prochain. Ce n'est pas possible. Alors, on va haïr, par exemple, une fausse religion, la religion musulmane, par exemple, on haït cette religion, mais on ne doit pas haïr les musulmans. On haït ce qu'ils font, mais on est prêt à donner leur vie pour les sauver. On est prêt à aller les secourir si on voit qu'ils sont blessés. Vous avez entendu qu'il a été dit, dit Jésus, vous aimerez votre prochain et vous haïrez votre ennemi. C'était dans la loi du talion, ça. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et descendre la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains aussi ne le font-ils pas? On pourrait dire, les païens ne le font-ils pas aussi? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens ne le font-ils pas? Pour vous, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Évangile de Saint Matthieu, chapitre 5. Enfin, il ne nous est pas permis de nous venger de ceux qui nous ont offensés, parce que Dieu seul a le droit de punir ceux qui font le mal, et qu'il s'est réservé le pouvoir de nous venger de ceux qui nous ont offensés. Nous devons prier pour ceux qui nous font souffrir, qui nous offensent. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus nous a appris à dire cela dans le Notre Père. Disons-le vraiment en pensant à ce que nous disons, en étant persuadés de ce que nous disons, et pardonnons à nos ennemis, ainsi Dieu pourra nous pardonner, sinon il ne pourra pas nous pardonner. Le cinquième commandement défend aussi le scandale. Là, on n'est pas dans le meurtre, on ne touche pas le corps, mais on touche l'âme. Il faut entendre par le scandale toute parole, toute action, toute omission qui porte le prochain au mal. Soit parce qu'elle est mauvaise, cette action, soit parce qu'elle paraît l'être. Alors, qu'est-ce qui scandalise surtout le prochain? Premièrement, les paroles contraires à la religion, à la charité, à la pureté. Deuxièmement, les conseils qui tendent à porter les autres au mal ou à les détourner du bien. On scandalise encore le prochain en lui procurant des écrits irreligieux et immoraux, et surtout en composant ces écrits. On scandalise le prochain on scandalise des enfants en les mettant devant un écran de télévision sur lequel ils verront n'importe quoi, des choses incorrectes, scandaleuses. Il y a beaucoup de scandales, le scandale de l'âme, le scandale du cœur. C'est un grand péché de scandaliser le prochain, parce que l'on cause ainsi trop souvent la perte des âmes que Jésus-Christ a rachetées par son sang, et que souvent le scandale est irréparable. Tellement il a blessé l'âme qui en est témoin, le scandale est souvent irréparable. Mais si on a été la cause du scandale, il faut prier, faire dire des messes, et puis penser, attendre de Dieu, de la miséricorde du bon Dieu, que les personnes scandalisées à cause de nous retrouvent la paix, la sérénité. Alors, on peut dire aussi à ce sujet qu'il ne faut pas se scandaliser trop vite. Il y a des saints qui disaient, Ne vous attristez pas du péché des autres. Oui, on est triste parce qu'ils ont offensé Dieu, parce qu'ils blessent leur âme, ils vont en enfer. Mais après, ne soyons pas troublés. Voilà, c'était ça que disaient les saints. Ne soyez pas troublés du péché des autres. Priez pour eux, mais ne soyez pas troublés outre mesure, parce que ça, c'est une ruse du démon qui peut nous entraîner aussi dans la chute. Si donc votre main vous scandalise, coupez-la, disait Jésus. Il vaut mieux pour vous entrer mutilé dans la vie que d'aller, ayant deux mains, dans la géhenne, dans le feu inextinguible, là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. Et si votre pied vous scandalise, coupez-le. Il vaut mieux pour vous entrer boiteux dans la vie éternelle que d'être jeté, ayant deux pieds, dans la géhenne du feu inextinguible, là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. Si votre œil vous scandalise, arrachez-le. Il vaut mieux pour vous entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté, ayant deux yeux, dans la géhenne du feu, là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. Vous voyez que Jésus se répète pour bien marquer. Car tous seront salés par le feu comme toute victime est salée par le sel. Le sel est bon, que si le sel s'affadit, avec quoi lui donnerez-vous de la saveur? Gardez bien le sel en vous et soyez en paix les uns avec les autres. Voilà, le sel est bon, mais s'il s'affadit, avec quoi lui donnera-t-on sa saveur? C'est-à-dire, là, on peut l'appliquer au scandale, par exemple. Il est bon d'avoir le discernement, de voir où est le péché, mais il ne faut pas se laisser entraîner, bien sûr, par le scandale, ne pas se laisser troubler outre mesure, parce que dans les temps actuels, nous serions troublés continuellement. Non, il faut émerger, lever la tête, penser que notre chef, c'est Jésus, que c'est lui que nous suivons, et que de tous les temps, il y a eu des scandales, des choses horribles qui se sont réalisées. La nôtre, notre époque, est sans doute la plus horrible, celle qui nous mène à la catastrophe finale. Mais cela ne veut pas dire que l'on doit se troubler. On garde la paix. Alors, qu'est-ce qu'il ordonne, le cinquième commandement? Il nous ordonne de pardonner à nos ennemis, nous l'avons vu, de nous réconcilier avec eux, de leur faire du bien quand nous le pouvons, surtout de prier pour eux quand on ne peut pas les atteindre, de faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Ce devoir de pardonner à nos ennemis est très rigoureux, car, comme nous l'avons dit, Dieu ne pardonnera pas à ceux qui n'auront pas pardonné. Voici un exemple, un passage de l'Évangile qui nous indique que le précepte du pardon des injures ne souffre point d'exception. Pierre s'approchant dit à Jésus, « Seigneur, si mon frère pêche contre moi, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne vous dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois, ce qui veut dire indéfiniment. C'est pourquoi l'on a comparé le royaume des cieux à un roi qui voulut faire rendre leur compte à ses serviteurs. Et lorsqu'il eut commencé à le faire, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents. Celui-ci, n'ayant pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vendît, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, pour acquitter sa dette. Mais se jetant à ses pieds, le serviteur le priait, disant, « Soyez patient envers moi et je vous rendrai tout. » Le maître de ce serviteur, ayant pitié de lui, le renvoya et lui remit sa dette. Mais le serviteur, en sortant, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et, l'ayant saisi, il le tenait à la gorge jusqu'à l'étrangler en disant, « Rends-moi ce que tu me dois. » Et, se jetant à ses pieds, son compagnon le priait, disant, « Soyez patient envers moi et je vous rendrai tout. » Mais lui ne voulut pas, et il s'en alla et le fit mettre en prison jusqu'à ce qu'il payât sa dette. Les autres serviteurs, voyant ce qui arrivait, furent tout contristés, voilà, pour le coup scandalisés, oui, et ils vinrent et ils racontèrent à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors son maître l'appela et lui dit, « Méchant serviteur, je t'ai remis toute ta dette parce que tu m'as prié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître irrité le livra aux exécuteurs, jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Ainsi vous fera mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond du cœur. » Alors on peut voir là une image du purgatoire. Hein. Ce serviteur est livré aux exécuteurs jusqu'à ce qu'il paye toute sa dette. Donc, au purgatoire, nous payerons toute notre dette, nous n'en sortirons pas tant que nous n'aurons pas payé toute notre dette. Mais le purgatoire peut s'éviter par une grande charité, et la première charité, pardonner à nos ennemis et prier pour nos ennemis. Parce que nous avons tous des ennemis. Nous n'avons pas tous des ennemis qui sont là à nous faire du mal, à mettre notre vie en danger ou nous voler notre argent. Mais nous avons des ennemis qui nous empoisonnent. Les ennemis du gouvernement, par exemple. Alors ça, ce sont des ennemis. Eh bien, prions pour eux. Prions pour eux, pour qu'ils arrivent à la conversion. Voilà pour le cinquième commandement de Dieu.